Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mouhamadou Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, la situation dans la région du bassin du lac Tchad. Du 29 au 31 janvier 2025, le Nigeria a accueilli la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Un forum dont l'objectif est de favoriser le dialogue, la coordination et la coopération transfrontalière entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine. À suivre le reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria, et l'analyse du professeur Saïbou Issa, historien spécialiste de la région du bassin du lac Tchad. Il est doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Maroua à l'extrême nord du Cameroun. Nous irons ensuite au Burkina Faso pour parler de l'initiative du gouvernement de collecter les archives et artefacts relatif à l'ancien président Thomas Sankara et à la révolution de 1983 pour le futur musée du mémorial Sankara. Le fait marquant de la semaine, c'est la décision du gouvernement sénégalais d'allouer plus de 15 000 euros à chaque famille comptant une personne décédée lors des violences politiques dans ce pays entre 2021 et 2024, des faits couverts par une loi d'amnistie que les autorités prévoient d'abroger. Nous en parlerons avec Maké Danioko, journaliste et fondateur du groupe Alkouma, partenaire de VOA Afrique. Nous vous amènerons enfin à la découverte d'une petite communauté des skateurs en Côte d'Ivoire qui, faute d'infrastructures, transforme les rues en terrain de jeu tout en rêvant de faire du skate une véritable culture urbaine dans leur pays. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Au cours des 15 dernières années, le bassin du lac Tchad a été fortement touché par les attaques du groupe terroriste Boko Haram, aggravant la situation de cette région déjà confrontée à l'extrême pauvreté, au sous-développement et aux effets du changement climatique. Pour favoriser le dialogue, la coordination et la coopération transfrontalière entre les pays de la région, un 5e forum des gouverneurs a été organisé du 29 au 31 janvier 2025 au Nigeria. Gilbert Tamba était avec à Maïdougouré pour couvrir ce forum pour VOA Afrique. Voici son reportage.
Ils sont venus des 8 territoires du bassin du lac Tchad pour discuter à Maïdougouré, la capitale de l'État des Borno, de l'avenir de la région confrontée aux défis sécuritaires de développement. Le renouvellement de l'engagement en faveur de la paix et de la stabilité, le renforcement de la coopération transfrontalière, l'autonomisation des communautés, en particulier les initiatives dirigées par les femmes et les jeunes, et la prévention de l'extrémisme violent et lutte contre le trafic de drogue sont les préoccupations majeures des populations de la région.
Le 5e forum des gouverneurs, justement, c'est pour la coopération transfrontalière. La principale raison pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour renforcer, pour encourager la coopération transfrontalière. Il y a aussi beaucoup d'autres moyens dont la CPNT a encouragé la coopération internationale.
Le bassin du lac Tchad traverse une crise due au conflit de Boko Haram, des menaces terroristes persistantes dans les zones transfrontalières.
Il y a toujours des soucis. Parce que quand on voit, il y a des gens qu'on n'entend pas plus des attaques par le Boko Haram. Mais dans des mois qui sont passés, 2-3 mois, il y a eu reprise des attaques par Boko Haram. Donc ça nous a montré qu'il y a toujours des soucis et le pays de sous-région il doit s'attacher à travailler ensemble.
Le chef d'état-major de l'armée nigériane reconnaît ses défis sécuritaires et militaires, mais s'engage à poursuivre le combat.
Les défis sont toujours présents, mais nous vaincrons. Les bonnes gens du Nord-Est ont fait preuve de résilience et malgré des années de défis et de difficultés, ils sont restés forts et déterminés ensemble. Nous réussirons.
Les participants au forum représentant des populations des zones affectées estiment que ce dialogue pourra produire des résultats attendus concernant surtout les décisions qui seront prises pour l'amélioration des conditions de vie dans la région du bassin du lac Tchad où quelques 6 millions de personnes, notamment des réfugiés, des déplacés internes en provenance du Cameroun, du Niger et du Nigeria, sont affectés.
Moi, mes attentes en participant à ce forum, c'était déjà de pouvoir voir comment est-ce que nos préoccupations sur le terrain, nous en tant que société civile, mais également en tant que femmes, vont être prises en compte dans ces stratégies révisées. Parce que pour la stratégie numéro une, nous en tant que société civile au Cameroun, particulièrement mon organisation, nous avons pris part à l'élaboration des plans d'action territoriaux, également à la mise en œuvre.
Le lac a perdu 90% de son volume en raison de sa surexploitation et du changement climatique. Les conflits entre éleveurs et fermiers se sont multipliés. Ce forum est ainsi un appel à transformer les défis en opportunités en favorisant la stabilité, la résilience et la prospérité dans le bassin du lac Tchad. Gilbert Tamba Ameidoukouri dans le nord-est du Nigeria pour VOA Afrique.
Merci beaucoup Gilbert Tamba pour ce reportage. Gilbert Tamba que nous retrouvons tout de suite au Nigeria pour quelques précisions supplémentaires sur cette actualité. Bonsoir Gilbert Tamba.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Voilà, on vient de suivre votre reportage donc sur ce forum regroupant les gouverneurs des pays de la région du bassin du lac Tchad. Alors, dans ce genre de rendez-vous, Gilbert, on retrouve généralement des responsables gouvernementaux, des hommes politiques et tout cela qui décident pour les communautés qui elles-mêmes ne sont pas assez représentées. Alors, est-ce que les populations de la région du bassin du lac Tchad ont été véritablement représentées et est-ce qu'elles ont pu se faire entendre?
Alors, pour commencer, je dirais que le forum a été marqué par la participation, comme vous l'avez dit, des gouverneurs des 8 régions du bassin du lac Tchad. Étaient également présents des représentants des États membres, les chefs traditionnels, des représentants donc des sociétés civiles. Et donc, il y a eu plusieurs interventions durant le forum, notamment les autorités en charge, aussi des experts, et ensuite les représentants donc de la société civile. Ils ont eu leur mot à dire pour expliquer quelque peu les problèmes et surtout les difficultés donc dans cette région du bassin du lac Tchad. Ils ont énuméré, par exemple, les difficultés majeures dans les régions durant les débats, surtout la question de l'insécurité, mais aussi le déplacement, la question des personnes déplacées dans les régions ont été expliquées en large durant donc les débats par les représentants donc des organisations de la société civile.
Oui. Alors Gilbert, il y a eu certainement des résolutions, hein, et comment est-ce que se fera le suivi de ces résolutions pour aider les populations affectées par ces diverses crises? Et d'ailleurs, quel rôle pourraient jouer ces communautés pour le suivi des dites résolutions?
Écoutez, c'est toujours le problème hein, dans de telles situations. Les décisions sont prises, mais leur application pose problème. Cela dit, dans le communiqué final après le forum, je n'ai pas vu le rôle principal assigné aux communautés. Mais le rôle des communiqués, il faut le dire, c'est de s'assurer que les décisions prises soient mises en application. J'ai parlé, par exemple, à une représentante de la société civile camerounaise qui m'a confié que ses attentes, c'est effectivement de voir comment les décisions prises durant ces sommets vont être mises en application donc dans les zones respectives parce que son organisation a participé effectivement à l'élaboration des plans d'action. Donc elle attend les actions, de voir les actions sur le terrain. Un forum qui a aussi souligné la nécessité cruciale des réadaptations et des réintégrations des anciens associés de Boko Haram et ISWAP qui ont quitté ces groupes, appelant donc les États, les institutions et les organisations du bassin de lac Tchad à fournir les ressources humaines et matérielles nécessaire pour élever ces défis efficacement, entre autres décisions annoncées. Ensuite, il y a eu un nouveau président à la tête des 8 gouverneurs du bassin de lac Tchad. C'est le gouverneur de l'État de Yobe, Maï Malabouni, qui promet donc de tout mettre en œuvre pour que les décisions prises soient mises en application.
Merci beaucoup Gilbert Tamba. On va continuer à suivre tout cela avec vous. Vous êtes le correspondant de VOA Afrique au Nigeria. Et pour une analyse, retrouvons à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, le professeur Saïbou Issa, historien, spécialiste de la région du bassin du lac Tchad. Il est le doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Maroua. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Alors, vous avez certainement suivi le reportage ainsi que l'intervention de notre correspondant au Nigeria. Alors, la coopération, hein, surtout militaire, c'est un véritable problème dans cette région face au terrorisme. Côté tchadien, par exemple, on accuse les voisins de permettre aux groupes terroristes de maintenir leur base de leur côté du lac, d'où ils se faufilent et lancent des attaques. Le Niger, lui, par exemple, soupçonne le Nigeria de favoriser les ingérences étrangères dans le but de nuire à Niamey. Vous qui avez participé au forum des gouverneurs de la région du bassin du lac Tchad. Quel a été le constat du forum sur la situation actuelle dans la région? Alors, professeur?
Oui, on a été coupé là tout à l'heure parce qu'il y avait une interférence. Donc, vous voulez reprendre la question, s'il vous plaît.
Oui, alors, quel a été le constat fait par les participants au forum sur la situation actuelle dans la région du bassin du lac Tchad?
Alors, sur la question de la sécurité dans le bassin du lac Tchad, il est important de noter que la notion de frontière ici, elle n'a de sens que pour ceux qui débattent sur les questions de souveraineté, parce que pour les groupes armés, qu'ils soient terroristes, criminels, dans cette zone, la transmigration, c'est-à-dire le passage d'un côté de la frontière nominale d'ailleurs à l'autre, a toujours été quelque chose qui a été noté et reste pour de longues années encore l'une des entraves majeure à la sécurisation dans le bassin du lac Tchad. Donc, on peut avoir des raisons d'accuser tel ou tel pays, telle ou telle entité de n'avoir pas sécurisé son territoire, mais la réalité, c'est que les groupes armés ont des possibilités de se mouvoir de part et d'autre de frontières qui sont assez longues, qui sont parfois marécageuses, qui sont lacustres ou qui sont des no man's land, dans lesquels, en réalité, ils ont la possibilité de se... Maintenant, il ressort clairement de la présentation du force commander de la FMM que la force multinationale mixte a quand même réalisé des succès majeurs, à savoir qu'elle a été en mesure d'empêcher désormais que Boko Haram ou les organisations qui s'en réclament soient en mesure de mener les grandes attaques, les attaques d'envergure que l'on voyait il y a encore quelques années, c'est-à-dire jusqu'en 2015-2016. L'atomisation de ce groupe armé et la possibilité que ces différentes unités se déploient au lac, dans les monts Mandara, dans la zone de Bama ou ailleurs, n'est qu'une suite logique de ces efforts-là de la FMM. Maintenant, il reste que vous avez soulevé tout à l'heure le questionnement du Tchad. Il y a également la suspension de sa participation pour le Niger. Toutes choses qui sont de nature plutôt à favoriser l'action des groupes armés, d'où l'appel du force commander aux Nigériens à faire cause commune et aux États à mobiliser autant que faire se peut davantage de ressources au profit de la FMM pour qu'elle puisse mener ses actions de manière plus robuste.
Justement, parlons des résolutions prises lors de ce forum des gouverneurs. Vous avez déjà évoqué la mobilisation des ressources, notamment pour la force mixte multinationale. De manière globale, qu'est-ce qu'il ressort de ce forum? Quelles sont les résolutions qui ont été prises, notamment dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et peut-être de manière générale des problèmes de la région du bassin du lac Tchad?
Alors, je dois noter dans un premier temps que la deuxième phase de la stratégie de stabilisation du bassin du lac Tchad a été approuvée par le forum des gouverneurs, ce qui constitue quand même un élément important dans le processus de reconstruction, dans le processus de retour à la paix et de réhabilitation économique de la zone, étant entendu que c'est la RSS est ce qu'il y a de plus important en termes de financement de la reconstruction pour l'ensemble du bassin du lac Tchad avec les quatre fenêtres que l'on a connues dans la première phase. La deuxième résolution, hélas, qui est dommageable à la stabilisation du Niger, c'est la suspension de la fenêtre nigériane sur les quatre, suspension de la fenêtre nigériane, mais il se trouve quand même que dans le communiqué final, il apparaît clairement que les États membres ont appelé à la mobilisation de ressources pour, en dehors de la RSS, continuer à soutenir la stabilisation du Niger, de la région de Diffa notamment, parce que nous sommes en face d'une situation qu'il faut aborder de manière holistique, parce que si ailleurs la stabilisation avance et que du côté de Diffa ça ne progresse pas, alors il est certain que ça va constituer un ventre mou pour l'expansion du terrorisme et des autres groupes armés. Il y a deux éléments importants qui sont pour la sécurité, la cohésion sociale et la stabilité du bassin qui sont importants, à savoir la politique de réintégration et de réhabilitation communautaire dont le texte a été validé par le forum des gouverneurs en donnant évidemment l'approbation politique. Il y a la politique de justice transitionnelle dont il a été recommandé qu'elle puisse être élaborée et finalisée, de manière à ce que les droits des victimes, la lutte contre l'impunité et l'implication forte justement des communautés dans le processus de réconciliation, dans le processus de réintégration, puisse avancer. Vous le savez bien, dans nombre de ces, avec l'opération Sulhu, par exemple, au Nigeria, ça a déjà assez avancé. Et ailleurs, il faut bien que la politique de réintégration et de réconciliation puisse se mettre en place, car il en va de la sécurité et de la stabilité des communautés.
Voilà. Merci beaucoup, professeur Saïbou Issa, pour votre analyse. Vous êtes historien, spécialiste de la région du bassin du lac Tchad. Un grand merci également à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet, sur nos différentes plateformes. Merci donc pour cette première partie de l'émission. On suit immédiatement en nous rendant au Burkina Faso. Là-bas, le gouvernement a initié en décembre dernier une collecte d'archives et d'artefacts relatifs à l'ancien président Thomas Sankara et à la révolution de 1983, les passionnés d'histoire et propriétaires de documents mettant en lumière la vie et la révolution de M. Sankara sont appelés à contribuer à la création d'une importante collection de pièces d'archives pour le futur musée du mémorial qui lui est dédié. Reportage de notre correspondant Gilles Dasda.
Parmi les personnes férues de Thomas Sankara, Conté Kouka Ouédraogo, conseiller pédagogique à la retraite à Bobo. Il y a peu, l'homme remettait au ministre de la Culture un numéro assez particulier d'un journal. Il y était question du parcours et de révélations sur l'assassinat du révolutionnaire burkinabé.
Je me suis rappelé que je possédais un vieux journal paru 14 jours après la mort de Thomas Sankara. C'était Jeune Afrique. À peine le journal a apparu qu'il a disparu en 2 ou 3 jours des kiosques. Tout a été dissimulé. Rares sont ceux qui avaient pu l'acquérir. Certains ont fait des copies pour les vendre clandestinement. Parce que si tu te faisais prendre avec ce journal, tu avais des problèmes.
Suite à l'appel du gouvernement pour collecter les archives et artefacts de Thomas Sankara, Kouka Ouédraogo décide de remettre ce journal qu'il a, dit-il, gardé jalousement pendant près de 38 ans.
J'avais une profonde admiration pour le président Thomas Sankara. Pour nous, il incarnait l'éveil de la conscience de l'homme noir, une leçon d'intégrité. Cet homme s'est sacrifié pour la Haute-Volta et pour l'Afrique.
L'annonce de collecte des archives a été faite en décembre 2024 par le gouvernement. Depuis, Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication et de la Culture, a apporté des précisions.
C'est à la fois des archives sous forme donc de documents administratifs, et des manuscrits du capitaine Thomas Sankara. Il y a également des archives audiovisuelles et donc un certain nombre d'éléments et d'artefacts que nous entendons collecter à travers donc l'ensemble du pays et même à l'international.
L'idée n'a pas de quoi déplaire à Mousbila Sankara, personnalité de la Révolution et oncle de Thomas Sankara.
Je trouve que c'est une bonne chose parce que sans une action de ce genre, certains documents vont disparaître avec leur contenu et leur philosophie. Donc je trouve l'action en tout cas appropriée si ça se réalise bien.
Et des archives, il en dispose, mais elles ont une certaine intimité. Quant aux autres documents, ils ont été emportés lors de son arrestation après la mort de Sankara.
J'ai quelques courriers, mais c'est d'individu à individu. Bon, des courriers qui ont échappé à la rafle ou au perquis de perquisition sous le Front populaire. Mais ces documents-là ne traitent que des rapports de famille, des rapports vraiment très particuliers, quoi, individuels, dont je ne pense pas avoir un intérêt général à être mis dans une action publique ou générale comme ça.
Féru d'archives, Rigobert Tiendrebeogo est le créateur de l'Association des amateurs pour la promotion des archives du Burkina APAB, mais aussi de Archives Burkina, une page qui compte près de 200 000 membres sur Facebook. Selon lui, là aussi on trouve de l'inédit.
À travers les membres, leur partage, leur publication, nous avons reçu des archives sur Thomas Sankara et bien d'autres personnes illustres que nous n'avions pas imaginées. Des personnes qui avaient des documents par devers eux et qui avaient informations sur certains documents, des familles qui avaient des informations sur Thomas Sankara, qui les ont publiées sur Archives Burkina.
À ce jour, les initiateurs de la page n'ont pas encore été contactés. La collecte des archives et artefacts de Thomas Sankara a pour but de constituer des collections d'archives pour le futur musée qui va être construit au sein du mémorial Thomas Sankara. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
À présent, le fait marquant de la semaine, le gouvernement du Sénégal a alloué plus de 15 000 euros à chaque famille comptant une personne décédée lors des violences politiques dans ce pays entre 2021 et 2024, des faits ayant officiellement causé près de 80 morts et couverts par une loi d'amnistie que les autorités prévoient d'abroger. Pour en parler, retrouvons Maké Danioko, il est journaliste et fondateur du groupe Alkuma, partenaire de VOA Afrique. Bonsoir Maké Danioko.
Bonjour, bonsoir Mohamed.
Alors, on a appris qu'il y a 15 000 euros qui vont atterrir dans certaines familles qui ont perdu des gens pendant les violences politiques entre 2021 et 2024. Comment est-ce que sera reparti cet argent et à quoi va-t-il servir exactement?
Bon, pour l'instant, on ne peut pas parler carrément d'indemnisation parce que il faudrait que, à l'issue du procès de ces victimes, que la justice pourra parler d'indemnisation. Même tout ça, et cette enveloppe consiste seulement à soutenir. C'est-à-dire, jusqu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont toujours gravement malades, et il y a des familles qui sont toujours, et qui ont été très éprouvées par les dépenses liées à la prise en charge de ces populations, de ces gens, de ces victimes. Et certains sont naturellement décédés, d'autres traînent toujours des maladies graves, et des fractures, même des prises en charge médicales assez compliquées. C'est la raison pour laquelle, à travers le ministère de la Famille et des Solidarités, le nouveau gouvernement sénégalais a décidé d'accorder une aide financière de 10 millions de francs CFA, environ 15 000 euros, certains diront 9 750 000, mais dans le compte rendu du ministère des Familles et des Solidarités, on parle carrément de 10 millions. Mmh. Voilà, les familles endeuillées seront vraiment aussi... ce n'est pas seulement l'aide financière. Il y a aussi l'enrôlement des familles, des victimes dans les programmes sociaux tels que la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, mais aussi des bourses sociales. Pour toujours est-il que le gouvernement pense que les plaies sont toujours béantes et que cette aide pourrait aider un peu les gens à oublier ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. Je rappelle aussi qu'il y aura des facilités pour ces familles de bénéficier rapidement, sans difficulté majeure, au financement de l'ADER. L'ADER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Voilà, donc il y a aussi un accès facile au Fonds national de crédit pour les femmes, un accès facile aussi au Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc toutes ces mesures ont été prises pour soutenir les ex-détenus, mais aussi les familles qui ont perdu un des leurs à travers les événements qui ont malheureusement provoqué beaucoup de dégâts au Sénégal, matériels, mais il y a environ 80 personnes
oui.
qui, semble-t-il, ont perdu la vie lors de ces différents événements.
Voilà. Merci beaucoup, Maké Danioko. Je rappelle que vous êtes journaliste et fondateur du groupe Alkuma, un groupe qui est partenaire de VOA Afrique. Et maintenant, merci. La note positive de cette édition pour terminer. En Abidjan, en Côte d'Ivoire, une petite communauté de skateurs se fait remarquer dans la métropole ivoirienne face au manque d'infrastructures et aux préjugés. Ces passionnés transforment les rues en terrain de jeu. Leur rêve, faire du skate une véritable culture urbaine. En Côte d'Ivoire. Reportage de Yacine Siwo à Abidjan.
Pour Williams et ses amis, le dimanche, c'est jour de skate. Dans une capitale économique vidée de ses travailleurs, la poignée de jeunes s'approprient les ruelles du plateau, le quartier des affaires, pour vivre leur passion encore méconnue du grand public.
Ici en Afrique, les gens ont pas mal d'a priori à propos du skateboard. C'est perçu comme un sport de gangster, c'est perçu comme un sport de brigand, alors que le skateboard, en tant que discipline sportive, peut aussi générer des fonds. On a des exemples comme ça dans le monde, comme Tony Hawk, qui est multimilliardaire aujourd'hui. Grâce à quoi? Grâce au skateboard. Lorsque vous vous trouvez sur une planche de skateboard, vous oubliez un peu vos soucis, vous planez, vous vous sentez vraiment bien dans votre peau. Mon envie personnelle, c'est de pouvoir mettre en place le premier skatepark de Côte d'Ivoire.
Mais pour l'instant, pas de skatepark ici. Alors les jeunes comme Joël trouvent des solutions et prennent des risques. Lui a 20 ans et adore les sensations fortes. Dans le quartier de Cocody, Joël roule au milieu des voitures, jongle avec le danger et fait ses figures sur le bitume.
Avec le skate, je me sens libre, tranquille. Ça permet de m'exprimer en fait. Moi et ma bande, j'ai l'impression que nous formons une équipe. J'espère représenter la Côte d'Ivoire, mon pays, aux Jeux Olympiques peut-être ou dans les tournois de skateboard.
Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Pour la première fois de l'histoire, le skateboard a été en compétition officielle lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. En attendant, Joël et ses amis ont fait d'Abidjan et de ses ruelles leur terrain de jeu.
Avec le skateboard, la sensation est tellement immense. Je ne veux pas dire indescriptible, mais tu sens le vent, tu as l'adrénaline, le skateboard. C'est vraiment un moyen de rencontre. On fait aussi des soirées skateboard, c'est-à-dire la journée, on roule. Et puis le soir, on se retrouve, on mange tout et tout. On renforce les liens aussi avec le skateboard.
Mais tout le monde n'est pas convaincu. Pour certains parents, les risques sont encore beaucoup trop importants.
C'est un jeu dangereux d'abord parce qu'ils le font sur la route. C'est dangereux pour eux. Et nous, en tant que parents, quand on voit ça, on a peur pour eux. Quoi. C'est vrai, peut-être il n'y a pas d'espace. Mais je pense que ça dépend de la commune. Il faudrait qu'on crée aussi des espaces pour les jeunes. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas la raison qui peut les pousser à aller jouer sur la route.
Tout à l'heure, quand j'ai vu même... On était en train d'en parler. Ils disaient, mais ceux-là, ils n'ont pas peur. Comment ils font ça? Est-ce qu'ils sont conscients? Donc, ça fait peur, au fait. Je crois qu'il faut trouver un autre cadre pour faire. Si c'est sur la route, c'est pas la peine.
Malgré les défis, la petite communauté de skateurs veut y croire. Un jour, la capitale économique ivoirienne ressemblera, elle aussi, à un skatepark géant. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.
C'est avec ce reportage sur les skateurs en Côte d'Ivoire que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Je tiens particulièrement à saluer nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches du Sahel. Merci également à Trésor Matondo qui était là pour la production vidéo de cette émission et Joselle Maurice pour le côté audio. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Focus Sahel, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.